Chers amis de Radio Salve Regina, bonjour. Lucille avec vous pour une autre émission de Storia e Storie. Nous allons voir des pages un peu tristes, bien sûr, puisque c'est la fin du Premier Empire. Nous sommes en 1814, au printemps, plus rien n'entrave la marche des Alliés sur Paris. Et aux Tuileries, le même jour où les Alliés décident vraiment d'entrer sur Paris, d'aller beaucoup plus vite, sont déterminés, dirons-nous, à entrer sur Paris, c'est un jour de fête, parce que le roi de Rome souffle sa troisième bougie. Plusieurs membres de la famille impériale et quelques camarades de jeu sont venus lui rendre hommage. « Ils s'amusent comme des fous », rapporte Marie-Louise. « Rien ne l'affecte, rien ne l'émeut. Je voudrais bien pouvoir me mettre dans ce moment à sa place. » Donc, en effet, Marie-Louise est très, très perturbée par les événements. Elle vit au rythme des lettres et des bulletins envoyés par l'empereur, qui n'arrivent à Paris que de façon irrégulière et dont le ton optimiste ne la rassure plus. Les pensées du petit prince qui sent cette nervosité, cette angoisse autour de lui, les pensées du petit prince se tournent plus que jamais vers son père. Le voilà maintenant qui invente un jeu où il imagine qu'il est un courrier chargé de lui porter des nouvelles de l'armée ou des lettres à sa mère et au gouvernement. Il galope ainsi à travers les appartements, les siens et ceux de sa mère, passant des armées de Napoléon à Napoléon, de Napoléon aux Tuileries, surmontant toutes sortes de dangers et relevant le défi de cette mission de haute importance qui lui a été confiée. Pauvre enfant. Le 27 mars, l'impératrice, le roi Joseph, donc le frère de Napoléon, et le petit roi, portant l'uniforme de garde nationale, passent en revue la garde massée place du Carrousel en prévision de la défense de la capitale. L'enfant endosse son rôle avec fierté. La gravité de la situation soulève pourtant une délicate question. Savoir si l'impératrice et l'enfant peuvent rester dans Paris, au risque d'être capturé par l'ennemi. Le conseil de régence est convoqué le lendemain pour trancher. À 20h, les grands dignitaires et les ministres s'avancent vers le salon des maréchaux, le salon préféré de l'empereur, qui en a confié la décoration à Percier et Fontaine. Percier et Fontaine qui ont été les deux grands architectes d'intérieur, décorateurs de Napoléon, et également qui avaient sauvé de la Révolution beaucoup d'œuvres d'art. Hein, ce sont des deux personnages dont on peut retenir les noms et à qui la France doit beaucoup. Donc Joseph est le premier à parler dans ce conseil. Il ne dévoile ni sa position ni les lettres de son frère dont il dispose. Clark, ministre de la guerre, le général Clark, dresse ensuite un tableau sombre de la défense de Paris. En dépit de cette mise en garde, la majorité du Conseil estime qu'il serait préférable que l'impératrice demeure à Paris. Un départ serait désastreux pour le moral des troupes et de la population. En outre, Marie-Louise, fille d'un des souverains alliés, reste la plus apte à sauver la couronne impériale. N'oublions pas qu'elle est fille de l'empereur d'Autriche, qui arrive à Paris avec les alliés. Donc certains préconisent même qu'elle se montre aux Parisiens avec l'enfant, pour les inciter à la résistance. Elle-même est hostile à l'idée d'un départ. Mais c'est à ce moment que Joseph sort une lettre datée du 16 mars, par laquelle Napoléon ordonne, en cas de menace sur Paris, de faire évacuer sur la Loire la régente et son fils. Vous ne devez permettre que dans aucun cas l'impératrice et le roi de Rome tombent entre les mains de l'ennemi. Ne quittez pas mon fils et rappelez-vous que je préférerais le savoir dans la Seine plutôt que dans les mains de l'ennemi. Le sort d'Axianax, prisonnier des Grecs, m'a toujours paru le sort le plus malheureux de l'histoire. Un nouveau vote, Philippe finit par entériner la décision impériale. Le départ est fixé au lendemain matin. Donc Napoléon est hanté par l'histoire d'Axianax qui était prisonnier chez les Grecs. Voilà, il était un des petits-fils du roi de Troie, du roi Priam, et il a été emmené prisonnier chez les Grecs. L'histoire d'Axianax, c'est l'histoire qui a été retranscrite et magnifiée par Racine dans la pièce Andromaque. Axianax est le fils d'Andromaque et d'Hector. Il est le fils d'un héros et il est prisonnier chez l'ennemi. Voilà. Napoléon ne supporte pas cette idée. Chacun sait que l'abandon de Paris signifie la fin de l'Empire. La reine Hortense se montre stupéfaite. À son retour du conseil, dit-elle, l'impératrice me dit d'un air à moitié riant, moitié craintif, « Je pars et je vous conseille d'en faire autant. » Je lui répondis, « Au moins, ma sœur, vous savez que vous perdez votre couronne. Je vois avec plaisir que vous en faites gaiement le sacrifice. » Hantée par sa propre histoire et par le sort réservé jadis à sa grand-tante Marie-Antoinette, Marie-Louise n'est pas en mesure d'entraver le cours des choses. Dès l'aube, rapporte Bossé, un proche des Tuileries, les cours étaient remplis d'équipages et de fourgons de toute espèce, les voitures de parade, même celles du sacre, les caissons du trésor, de l'argenterie encombraient tout l'espace. Marie-Louise renacle à régler les affaires. Avant de partir, elle prend une dernière fois la plume pour dire son désaccord à son mari. « Je suis bien fâchée de partir. Cela aura des inconvénients terribles pour toi. » Espère-t-elle à la dernière minute un contre-ordre de l'empereur ? Non, rien n'arrive. Elle doit se résigner. Dans le palais en émoi, ordres et contre-ordres se succèdent. Le départ est repoussé et à 10 heures, Clark surgit pour presser les voyageurs de partir sur le champ. Les Cosaques sont à Clichy. Alors les Cosaques, ils faisaient peur à tout le monde. C'était bien sûr les armées russes, mais les Cosaques avec leurs uniformes bizarres, leur allure effrayante, campaient sur les Champs-Élysées. Ils avaient dressé leurs tentes et les Parisiens, lorsqu'ils ont eu un peu moins peur, allaient les regarder, mais bon, les Cosaques, quand même, ont fait énormément peur à la cour. Alors, l'enfant est réveillé plus tôt qu'à l'ordinaire. Il perçoit un changement inhabituel, même s'il ne sait pas ce qui se passe. Mais Neva, collé aux côtés de l'impératrice, remarque que, discrète et l'âme remplie de tristes pressentiments, elle éludait les questions que lui adressait son fils. Devine-t-il que la cérémonie pour laquelle on lui fait revêtir son uniforme de garde nationale est celle d'une fuite ? Ou bien l'enfant se rassure-t-il en croyant qu'il s'agit d'une solennité de plus ? Lui qui, depuis des semaines, les enchaîne avec docilité, se prépare une nouvelle fois. Le va-et-vient continu des domestiques, des dignitaires et des militaires finit cependant par l'inquiéter. Les questions qui se posent restent sans réponse. Clark précipite le mouvement. Au moment même où Marie-Louise se décide à partir, l'enfant se jette à terre et se débat dans tous les sens, en hurlant qu'il refuse de partir. « N'allez pas à Rambouillet, » crie-t-il à sa mère, « c'est un vilain château. Restons ici. » Le pauvre enfant semblait deviner ce que lui réservait l'avenir. La crise de petit roi se poursuit durant de longues minutes. « Je ne veux pas quitter ma maison, » répète-t-il. Les témoins sont médusés. « J'étais près de lui, » se remémore Bosset, et j'entendis l'expression de sa petite colère. Monsieur de Canisy, écuyer de service, fut obligé d'aider Madame de Montesquiou à le porter, malgré lui, dans la voiture. C'est la première fois que cet enfant, que l'on appelait Sire et Majesté, n'est pas écouté. Depuis des semaines, on lui fait croire qu'en l'absence de son père, c'est lui le maître, et cette certitude influe sur sa façon de vivre. Tout s'effondre pour lui avec ce départ. N'est-on pas en train de trahir sa confiance ? Ce qu'on lui demande de faire est contraire à ce qu'on lui a appris. On lui a toujours dit qu'il était un soldat. C'est un soldat qu'on l'habille depuis longtemps. Et de là, on lui dit de quitter la capitale. Son monde se renverse. Le convoi, escorté de 1200 hommes, à cheval et à pied, s'ébranle enfin Imaginez le temps qu'il faut. Les Cosaques à cheval étaient bien plus rapides. Rares sont les passants. Il y a bien quelques badauds pour contempler ce triste cortège comme on regarde passer un convoi funèbre. Le petit roi voyage dans la voiture de sa mère. Le pauvre petit était vraiment touchant, dit-elle. Il était deux fois plus caressant qu'à l'ordinaire. Se console Marie-Louise. Il est accompagné par sa gouvernante, les deux sous-gouvernantes, son écuyer et son médecin. La suite arrive au château de Rambouillet dans l'après-midi. L'impératrice est exténuée. Les événements qu'elle vit depuis 24 heures lui sont insupportables. Et ce n'est pas dans ce palais qu'elle n'a jamais aimé qu'elle trouvera le repos. Il est à peine 22 heures. Lorsqu'elle reçoit, elle vient à peine de s'arrêter et de se reposer, qu'elle reçoit des nouvelles de Paris, il faut qu'elle quitte Rambouillet au plus tôt pour se diriger vers Chartres afin de rallier Tours. Elle est épuisée. Elle a été rejointe par une partie de la famille impériale, mais elle ne trouve pas la force de se remettre en route. Elle attend le lendemain matin, au petit jour, et au moment de partir, le roi de Rome renouvelle la scène de la veille. Mais il n'a pas le choix, et le convoi se remet en marche. Première étape, Chartres, où l'on loge à la préfecture. Le lendemain, le voyage continue vers Châteaudun. Aucun logement n'est en mesure d'accueillir la suite. Seul un hôtel dispose d'une chambre aussitôt réservée pour l'impératrice, qui la partage avec son fils. L'enfant s'habitue aux situations nouvelles et succombe au charme d'une vie simple et nouvelle. La proximité avec sa mère l'enchante. Au désespoir succède l'excitation de la nouveauté, comme tous les enfants, bien sûr. L'étape suivante à Vendôme est plus confortable. La marquise de Soisy a mis son château à disposition pour loger l'impératrice et son fils, alors que Madame Mère, Jérôme, Cambacérès et les autres trouvent l'hospitalité chez des notables locaux. Quant au roi Joseph, tout juste arrivé de Paris, il est logé au collège des Oratoriens, celui-là même que le jeune Honoré de Balzac vient de quitter. Nous voyons les générations qui se succèdent et s'entrechoquent. Comme on l'a vu, l'histoire de France fait partie des matières enseignées au petit roi. Elle a défilé sous ses yeux, au travers des cathédrales, des églises et des châteaux. Mais personne n'a eu le temps de lui expliquer cette France qu'il a découverte avec Madame de Montesquiou. Il est fasciné par le paysage comme par les hommes. De sa fenêtre, il aperçoit les ouvriers agricoles travaillant dans les champs, des bandes d'enfants qui courent à côté des carrosses, des soldats en débandade qui, eux aussi, ont quitté Paris. À Vendôme, l'impératrice apprend que Paris est tombé. Après 2 jours de combat, il faut se rendre à l'évidence. La capitulation est signée dans la nuit du 31 mars, alors que Joseph est déjà en route pour rejoindre la régente et son fils. Pour la première fois depuis la guerre de 100 ans, la capitale est occupée par des étrangers. Pardon. Le mauvais temps rend la suite du voyage épique. Il y a de la pluie, de la boue, le cortège tombe, les carrosses tombent dans la boue, se renversent, enfin c'est terrible. Et l'impératrice arrive à Blois dans un état pitoyable. Dans un état pitoyable. La quinzaine de fourgons qui contiennent le trésor de la couronne a failli être perdu dans les ornières. Le soulagement s'empare des fugitifs quand ils arrivent à Blois. La régente et son fils sont installés à la préfecture, ancien palais de l'évêché. Dès le lendemain, chacun tente de reprendre ses habitudes. La gouvernante, Madame de Montesquiou, est la première à vouloir que son élève retrouve une certaine routine. Et oui, les habitudes, elle pense que ça va le calmer ses angoisses. C'est ainsi qu'elle reprend l'apprentissage des femmes de La Fontaine et motive l'enfant à l'idée qu'il les récitera à son père lorsqu'il le reverra. Dans ses courriers, Marie-Louise rassure l'empereur sur son fils. Elle sait que c'est le seul sujet dont elle peut parler sans tristesse et le seul sujet qui rassurera Napoléon. Comment l'enfant peut-il comprendre ce qui se passe ? Il est l'intimité qui s'est établie dans la voiture entre sa mère et lui, parce qu'elle est vraiment perturbée par la suite des événements. Que va-t-il se passer ? Marie-Louise est dans tous ses états, et donc l'intimité qu'elle a eue envers avec son fils est complètement terminée, hein, et elle est dissipée. L'enfant a regagné les bras de Madame de Montesquieu, mais que peut-il comprendre ? Comment pourrait-il savoir que son sort est en train de se jouer à Paris ? Je vous laisse aujourd'hui, chers amis de Salve Regina, de notre chère radio, et la semaine prochaine, nous verrons, avec la chute de Napoléon, le départ de l'enfant pour l'Autriche.